Rien n'est joué.
Rien n'est joué.
Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce matin, nous allons évoquer le festival Vision du Réel qui a commencé à Nyon et qui durera jusqu'au 23 avril. C'est un petit peu la journée puisque tout à l'heure, mon confrère Patrick Ferlat recevra à 13h deux cinéastes également en compétition à Vision du Réel, Antoine Catin et François Collère. Je vous donnerai dans le détail le projet des films qu'ils présentent là-bas. Et ce matin, moi, dans Rien n'est joué, j'accueille avec bonheur Denise Gillian. Bonjour Denise Gillian.
Oui, bonjour.
Cinéaste indépendante et également Juan José Lozano, également cinéaste indépendant, présent dans le cadre du Vision du Réel. Bonjour Juan José Lozano. Lozano, c'était un nom prédestiné pour un Colombien.
Pour Lausanne.
Bon, vous êtes à Genève, mais il y a beaucoup de Lozano en Colombie.
Non, pas beaucoup. Non, bon.
Alors, tous deux, avec cette émission divisée en deux parties et puis en même temps une réflexion sur ce que ça veut dire un documentaire aujourd'hui à l'heure de la télévision. Télévision envahissante, ça veut dire la liberté de créer un documentaire, à qui on s'adresse, à qui on le propose, qui le verra. Mais d'abord, essayer de spécifier ce que sont ces deux documentaires. Denise Gillian, le documentaire s'appelle Article 43. C'est parti au départ, Denise Gillian, d'un atelier de cinéma que vous proposiez à l'intérieur de la prison de la vallée
des EPO.
Voilà. Et là, donc, atelier avec les prisonniers mené par vous. Donc déjà une première aventure à l'intérieur de rencontrer des détenus et d'être confronté à leur créativité finalement. Et puis l'idée du film. Comment est-elle née cette idée du film, Denise Gillian?
Alors, on a commencé en février 2007 à réaliser 5 documentaires avec des détenus. L'objectif, c'était vraiment de leur permettre à eux de créer, de s'exprimer et de réaliser leurs films. Et moi, je n'avais pas du tout pour but de faire un documentaire sur l'aventure. Mais les choses se sont avérées tellement intéressantes que petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi ne pas filmer? Alors, au départ, ça devait être un bonus ou un making-of. Et puis ensuite, je me suis dit, non, mais il y a vraiment un intérêt autre. Et on s'est dit, bon, ça peut être un 52 minutes télé, puis finalement c'est à 90 minutes, ça a pris de l'ampleur. Alors c'est vrai que bon, s'immerger en milieu carcéral, c'est particulier et c'est une chance rare, je dirais. Donc il aurait été dommage, de mon point de vue, de ne pas sortir ma caméra à un moment donné pour témoigner de cette aventure.
Mais en même temps, il y avait plusieurs pistes. Témoigner de cette aventure, ça aurait été suivre au quotidien les détenus dans leur vie. Je me lève, je me couche, qu'est-ce que je fais la journée? Donc ça, ce n'est pas tout à fait ça, c'est vraiment l'aventure de la création pour eux.
Oui, alors tout à fait. Oui, quand je disais aventure, je pensais à l'aventure cinématographique en milieu carcéral. La question de départ qui m'animait étant qu'est-ce qu'il advient de notre créativité finalement quand on est enfermé depuis des années, quand plus personne ne nous demande notre nom, quand on n'a plus d'avis à donner sur les choses et la société. Est-ce qu'on arrive à sauver cette part de créativité qui pour moi fait qu'on tient debout finalement, hein? Parce que quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui arrive à savoir qui il est, à donner une forme à ses idées et puis à se confronter au monde. Donc c'est ça que j'allais chercher en fait.
Mais au fond, vous aviez un tout petit bout de réponse puisque cette prison, hein, l'établissement des plaines de l'ordre, vous y aviez déjà pénétré, ça c'était en 1994, et c'était d'ailleurs votre premier documentaire, si je me souviens bien.
Oui, c'est ça. Oui.
Avec le portrait d'un homme qui était en détention à perpétuité, et qui précisément a choisi la peinture pour sortir de son isolement et de cette transparence de statut quand on est prisonnier.
Oui, alors c'était un film sur Angelo Donadoni devenu peintre en prison, et je crois que c'est vraiment lui qui m'a ouvert à cet univers de création. Activité carcérale où Angelo avait réussi à changer son identité de gangster condamné à perpétuité dans 4 pays d'Europe. Il était vraiment intérieurement en tout cas devenu peintre et ça lui avait permis une forme de réhabilitation et en tout cas une reprise de contact avec sa famille
et la
une forme de fierté, la possibilité
d'exposer dehors, dans des galeries dehors.
Et c'est vraiment Angelo qui m'avait ouvert à l'époque à l'idée et que finalement la création dans des milieux de carcéraux sont bénéfiques en profondeur dans la mesure où ça permet une métamorphose, ça permet un changement. Donc j'étais restée avec ça en fait en tête. Puis ensuite, ben, les opportunités de la vie ont fait que j'ai pu y revenir avec une création.
Alors, ce qu'on peut, en effet, c'est la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter ? On peut imaginer qu'ils ont envie de nous dire, puisqu'ils savent que ces films vont être présentés à l'extérieur, ils ont envie, a priori, de nous dire comment ils vivent, justement, ou c'est autre chose ?
Bah, pas tellement. J'étais très étonnée, justement, par les sujets choisis. Donc, on les a laissés absolument libres hein, d'exprimer ce qu'ils voulaient. Ils étaient encadrés par Nadejda Maniena dans un atelier d'écriture qui était vraiment là pour les aider
à coucher de leur scénario.
Coucher, ouais. Mais pas pour formater quoi que ce soit. Et il n'y en a qu'un sur un groupe de cinq qui a exprimé le désir de parler de lui. Bernard, que vous avez rencontré d'ailleurs.
Et nous allons entendre grâce à Blaise Angèle et vous.
Oui, ouais. Mais c'est le seul qui a eu le besoin d'exprimer quelque chose, un autoportrait, quelque chose qui avait trait à sa vie actuelle. Et les autres sont partis dans des sujets étonnants. L'un, par exemple, a fait un documentaire sur la plantation de patates aux EPO. Un autre a fait un film sur l'historique de la prison. Et deux autres ont fait des films d'art et essai, très poétiques. L'un sur la liberté... Et d'ailleurs, oui, vous montrez là la carte postale, enfin l'affiche du film, qui est reprise d'un film de Pedro Toledo, où on voit un aigle voler dans un couloir de la prison. Donc moi, j'étais très surprise par les sujets et par la détermination qu'ils ont eue à faire ça et rien d'autre. Ou à partir du moment où ils ont accouché d'une idée de film, ils se sont accrochés à cette idée-là, quoi, à ce désir-là, et ils étaient très têtus. Et c'était extrêmement intéressant de voir cette détermination.
Donc 9 personnes, 5 films. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui ont aidé à la fabrication technique de ces courts-métrages.
Hein. Oui, un des objectifs de l'atelier, c'était de leur apprendre mieux les outils d'une chaîne de télévision interne à la prison qui existait avant notre arrivée. Donc, ceux qui n'ont pas créé des films, en fait, se sont formés au mixage, à la prise de son, à l'image et au montage.
Alors, on reviendra sur ce qu'a apporté l'expérience aux uns et aux autres. Et vous aussi, comment est-ce que vous avez vécu cette incarcération provisoire ? C'était toutes les semaines, tous les soirs, enfin un soir par semaine.
C'était deux soirs par semaine, 3h30.
Où vous
pendant
alliez.
Presque une année. Oui.
C'est quand même un investissement de cinéaste. Au-delà de l'atelier, c'est lourd, non ?
Oui, humainement, c'est vrai qu'on ne sort pas indemne de prison, même quand on est libre d'en sortir quand on veut. C'est une des choses que je dis dans le documentaire, d'ailleurs. J'ai eu le sentiment que la prison se gravait dans notre corps. Ce sentiment d'être enfermé et d'être dépendant. Une de mes terreurs, c'était le feu. Je me disais, mais si ça prend feu, on est enfermé dans les sous-sols, il y a 9 portes derrière nous, on n'a pas les clés. C'est-à-dire que si ça prend feu, il faut absolument que les gardiens pensent à nous et viennent nous ouvrir, sinon on ne sort pas. Alors c'est généralement, quand on pense prison, on se dit, mon Dieu, fréquenter des gens dangereux, je ne sais quoi. Mais ce n'était pas du tout ça, finalement, l'angoisse physique comme ça et personnelle. C'était vraiment cette dépendance... au personnel pénitentiaire.
Juste avant d'écouter une chanson et un petit peu après, justement, l'un des protagonistes du film, quelles étaient les contraintes et les censures exercées par la prison, Denis Gillian ?
Alors, elles étaient multiples, j'ai du mal à les résumer. À la fois, on a eu une liberté extraordinaire, parce qu'on a pu complètement protéger la parole des détenus, dans la mesure où tout ce qu'ils écrivaient et tout ce qu'ils filmaient n'était vu par personne d'autre que nous et les deux surveillants qui encadraient l'atelier. Et le droit de regard, en fait, et de censure ne s'exerçait que sur les scénarios qui étaient prêts au tournage et sur les films qu'on allait sortir à l'extérieur. Donc ça, c'était extrêmement important pour moi, hein, de préserver une créativité, sinon ça n'avait aucun sens. Donc quand ils ont écrit, filmé, etc., ils savaient que personne ne verrait ces rushs-là. Et ensuite, alors par contre, pour toute image ou parole exprimée à l'extérieur, tout, absolument tout, a été visionné par le chef de la sécurité ou, dans le cas de mon documentaire, par la direction.
Donc ça veut dire que jusqu'au dernier moment, vous n'étiez pas sûr que le film pourrait paraître ?
J'ai su le 12 mars de cette année que c'était bon.
Et on présente le film à Nyon.
Un mois plus tard.
Un mois plus tard.
Oui, je suis un peu fatiguée là.
Oui. Il y a de quoi s'angoisser. Est-ce qu'il y a eu des grosses coupes dans ce qui a été proposé aucune. À la censure.
Alors, aucune. Je dois dire que le bilan, en fait, est, au final, j'ai eu vraiment une très, très grande liberté, tout en vivant avec la peur constante hein, de ne pas y arriver, que les portes se ferment d'un moment à l'autre, parce qu'il suffit d'un incident qui, en plus, ne nous appartient pas, un incident entre eux, entre les détenus, mmh. avec des gardiens, etc., pour que les portes se ferment et qu'on doive tout arrêter. Donc, c'est un climat d'incertitude et de prise de risque permanent, mais au final, eh bien, je crois que tout le monde était très, très conscient que finalement, la parole dans ce documentaire article 43 n'engage que moi, au même titre que la parole prise par les détenus n'engage qu'eux. Et c'est vraiment notre regard sur une aventure qui est posée. Et je crois que la direction a bien senti ça, dans la mesure où aucun droit de censure n'a été exercé, alors que parfois mon film est un peu critique du milieu carcéral et de ce qu'on a vécu.
On reviendra sur le titre parce qu'il faut le détailler tout à l'heure, l'article 43, qui était au fond un autre élément d'incertitude pendant cette rencontre que vous avez eue avec les détenus pendant un an. D'abord, des nouvelles de la route avant la chanson.
Infotrafic, RSR.
Sur la route principale Yverdon-Lausanne, le trafic est perturbé à la hauteur de Prilly. Un accident s'est produit aux abords du carrefour du Chasseur. Gainsbourg, choisi par Jean-Baptiste Roumain. C'est rien n'est joué, c'est jusqu'à 11h.
Je ne sais jamais laisser enchaîner. On ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé.